Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue sur nos ondes locales de proximité. Nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle chronique. Bonjour Gilliane.
Bonjour Martine et bonjour à tous. Nous abordons une période sombre de l'histoire, la Seconde Guerre mondiale, et plus particulièrement l'envoi de la main-d'œuvre française en Allemagne.
La loi sur le service du travail obligatoire a été, en effet, votée le 16 février 1943, voici 80 ans. Nous en parlons après avoir écouté « La chevauchée des Valkyries » de Richard Wagner.
Nous évoquons un aspect de la Seconde Guerre mondiale, les réquisitions de main-d'œuvre au service de l'Allemagne. Et rappelons d'abord quelques faits.
Eh bien, une fois vaincue, la France est divisée en plusieurs zones lorsque l'armistice est signé le 22 juin 1940. Le département de l'Ain est alors majoritairement situé dans la zone non occupée. Peu après, Philippe Pétain rencontre Hitler le 24 octobre 1940 à Montoire. C'est dans le département du Loir-et-Cher. Il aimerait obtenir le retour de prisonniers et des conditions d'armistice moins sévères. En fait, obtient-il satisfaction ?
Non, pas du tout. Hitler reste très évasif. Victorieux, il a la France à sa botte. Il détient environ 1 800 000 prisonniers français en Allemagne. Il n'a aucune raison de faire des concessions. Et il a de quoi voir venir, si nos auditeurs nous autorisent cette expression. Par contre, Pétain, lui, choisit clairement la voie de la collaboration.
Mais les soldats prisonniers détenus en Allemagne restent l'une de ses obsessions, d'autant plus qu'ils sont majoritairement des paysans. Il aimerait bâtir sa révolution nationale avec eux. Ils sont le symbole de la France traditionnelle. Ces prisonniers vont être au cœur de la réquisition de la main-d'œuvre française.
Une idée insidieuse germe en effet dans les cercles du pouvoir. Et si l'on envoyait des ouvriers français en Allemagne ? Ils sont plus nombreux à être restés en France car, au début du conflit, ils étaient affectés dans les usines au service de la guerre. En envoyer en Allemagne, ce serait en quelque sorte un rééquilibrage. Cela permettrait de répondre aux demandes allemandes et d'obtenir des retours de prisonniers dont l'absence commence vraiment à peser.
Nous sommes déjà en 1942. Et le gouvernement de Vichy fait d'abord appel au volontariat. On invite les ouvriers des usines métallurgiques à se porter volontaires pour favoriser les retours. Le mot de relève entre dans le vocabulaire de la collaboration.
La collaboration est un vœu du gouvernement, mais peu partagé par le peuple français. Et comme les volontaires sont peu nombreux à partir, Vichy transforme les directives ou instructions incitatives en une loi, celle du 4 septembre 1942. Si la France envoie 3 ouvriers spécialisés en Allemagne, un prisonnier rentrera au pays.
3 partants pour un retour. L'écart est important. Ce n'est guère vendeur. Peut-être qu'avec une bonne propagande.
Cette propagande est en effet intense, avec de belles affiches. Mais elle ne dit pas tout. Vichy encourage un maximum de départs pour l'Allemagne, mais ne dit pas trop que seuls les ouvriers spécialisés sont pris en compte pour l'échange, et encore, selon la bonne volonté de l'Allemagne.
Vichy fait quand même de l'autopublicité.
Pierre Laval organise en gare de Compiègne le croisement d'un train de partant pour l'Allemagne avec le premier train ramenant des prisonniers en France. Il encourage la radio et la presse à en rendre compte, abondamment et en première page.
Et avec quel succès ?
Un résultat décevant, d'un point de vue général. Pour l'Ain, où tout n'a peut-être pas été comptabilisé et conservé, on retrouve le départ de 3 groupes jusqu'à fin décembre, totalisant 39 personnes.
Donc, il faut faire encore plus.
Oui, en janvier 1943, on commence à choisir des ouvriers dans les entreprises, avec peu de charges de famille, pour les envoyer en Allemagne. Ce sont des volontaires désignés, selon l'expression populaire. Des assignés pour l'administration. Et les gendarmes leur remettent, contre signature, une convocation écrite fixant leur départ.
Oh bah diable alors. La collaboration n'est pas un vain mot. Ces assignés obéissent ?
Oh, pas tous. Tous signent leur convocation sans difficulté. Certains obéissent aux ordres de transfert en Allemagne, mais d'autres pas. Le moment venu, ils font savoir à leur entourage qu'ils partent prendre le train. Ils quittent bien leur domicile. Et ensuite, plus de nouvelles. Ils sont alors répertoriés comme défaillants.
D'autant plus que la guerre change avec la défaite des Allemands devant Stalingrad le 2 février 1943. Les Allemands n'apparaissent plus infaillibles.
Cela donne davantage d'espoir aux opposants, mais aussi davantage d'exigences de la part des Allemands. Il leur faut encore plus d'ouvriers pour les usines. Ils en demandent 250 000 à la France à fournir avant le 31 mars 1943.
Pour satisfaire cette demande, le président du Conseil à Vichy, Pierre Laval, instaure le service du travail obligatoire au cours d'un simple Conseil des ministres le 16 février 1943. La loi est promulguée dès le lendemain, sans la signature du chef de l'État, Philippe Pétain.
Et tout doit aller très vite. Tous les hommes nés en 1920, 1921 et 1922 doivent se faire recenser dans leur commune avant la fin de février et passer une visite médicale dès les premiers jours de mars. Là, les instructions sont précises. Les médecins désignés doivent examiner 10 hommes par heure et l'inaptitude au STO doit être l'exception. Les directives indiquent que les handicapés physiques peuvent être employés à des tâches administratives.
Tout est en place pour que les premiers partent le 3 mars 1943. Un autre départ, très massif, est programmé pour le 22 mars, à Bourg, pour 506 désignés. Hélas, ou logiquement, cela ne se passe pas dans le calme malgré le bouclage du quartier de la gare par les autorités.
Beaucoup de monde se presse aux abords de la gare et commence à manifester contre ce départ massif. Des gens parcourent les voies. Le service d'ordre est débordé et il est fait appel aux soldats allemands. Ceux-ci tirent des coups de feu. Il n'y a pas de blessés. Un calme précaire revient. Le train part.
Pas pour longtemps, car le signal d'alarme est tiré dès la sortie de la gare. Les voitures sont même décrochées de la locomotive. Les incidents se poursuivent et il faut plus d'une heure pour parcourir les 10 km de Bourg à Saint-Étienne-du-Bois. Ceux qui ont beaucoup hésité à partir profitent des multiples arrêts pour quitter ce train.
D'autres acceptent leur sort et se laissent porter par une aventure qu'ils n'ont pas décidée. Ils font un long voyage, traversent toute l'Allemagne pour être répartis dans des usines, tout à l'est, du côté de l'ancienne Pologne et de Danzig, ville portuaire de la Baltique. Ils sont sans doute moins de 200 à arriver à destination. De tels départs massifs ne seront pas renouvelés à Bourg.
Mais ils continuent par petits groupes, envoyés en passant par Lyon ou par Mâcon. Malgré le vol et la destruction des fichiers STO par de jeunes résistants, les auteurs du vol seront rapidement arrêtés et leur forfait, s'ils perturbent le service, n'entrave pas les départs tant l'administration de Vichy multiplie les copies des listes.
Les départs sont insuffisants. Et les assignations au STO sont étendues aux hommes nés de 1912 à 1919. Désormais, le STO concerne 11 classes d'hommes, toujours non agriculteurs.
L'emprise de Vichy sur ces hommes est encore renforcée par l'instauration d'une carte de travail obligatoire. Et à propos, que font ceux qui choisissent l'illégalité, les non-partants ?
L'administration, omniprésente, les classes comme réfractaires ou insoumis, selon qu'ils se sont présentés ou non au recensement dans leur mairie. Dans tous les cas, ce sont des défaillants. Et ils n'acceptent pas d'aller en Allemagne. Ils entrent dans l'illégalité et ils ne peuvent plus prétendre à leur carte d'alimentation.
La population est majoritairement de leur côté. Et s'ils ont des contacts à la campagne, ils rejoignent des fermes un peu isolées où ils peuvent être nourris contre du travail. Quelques secrétaires de mairie fournissent de fausses cartes d'identité et parfois le bon contact pour, selon l'expression, prendre le maquis, c'est-à-dire rejoindre un camp de résistance.
Le premier est installé dès mars 1943 sur la montagne entre Thoirette et Izernore. D'autres le seront dans le Bugey et même à deux reprises dans les bois du côté d'Ilia et de Pontevel. Cette vie clandestine n'est pas facile par les difficultés du ravitaillement et les recherches engagées par les autorités.
Dès que la défaillance d'un STO est connue, les gendarmes mènent l'enquête. Des arrestations interviennent, mais peu nombreuses. Les gendarmes sont intégrés dans les communes depuis l'avant-guerre et ils n'ont aucun intérêt à être trop zélés. Ils préfèrent passer de longues heures à taper à la machine leurs rapports infructueux. Le seul risque encouru par les réfractaires est l'obligation de partir en Allemagne après un passage en prison.
Par contre, entrer en résistance, là, c'est un risque réel. C'est être pris en chasse militairement par les Allemands, voire la Gestapo et tous leurs collaborateurs. Tout réfractaire et tout résistant sont sous la menace d'une dénonciation qui peut être fatale.
On mesure bien les dangers d'une vie clandestine et ou combattante. Malgré l'inversement du cours de la guerre et le débarquement du 6 juin 1944, les derniers départs pour le STO ont lieu en juillet 1944. Mais alors, combien sont-ils partis ?
Ils ont été plus de 2500 à être désignés. La moitié environ a accepté de partir. Comme les prisonniers ou les déportés politiques dans les camps d'extermination, les STO sont libérés en fonction de l'avancée des Alliés à l'ouest et des Russes à l'est. À l'été 1945, ils sont de retour. Mais 65 ne sont pas revenus, victimes des bombardements, de maladies ou d'autres causes.
Parmi les retours, environ 1400 demanderont leur carte de déporté du travail. Cette appellation sera vivement combattue par les résistants et les déportés politiques. Les anciens du STO seront finalement des PCT, personnes contraintes au travail en territoire ennemi.
Dans l'après-guerre, où la résistance est mise en avant, avoir été STO est une position difficile à assumer. On se tait, on n'en parle pas, on ne s'associe pas, on témoigne rarement. C'est malgré tout un aspect de la guerre. Ceux des environs de Danzig se sont retrouvés, entre eux, 40 ans après.
Et l'association Chronique de Bresse a publié en 2019 deux témoignages profondément humains. Ce sont bien des hommes qui ont été ballottés par l'histoire.
Nous en terminons avec une chanson de Georges Brassens, un ancien STO. Nous avons choisi l'Auvergnat, une chanson appelant à la solidarité. Au revoir à tous.
Au revoir à tous. Merci à Jimmy, aussi à la technique. Et au mois prochain pour une nouvelle chronique locale sur nos ondes.
Elle est à toi cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon m'a donné quatre bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid. Toi qui m'as donné du feu quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez. Ce n'était rien qu'un feu de bois, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un feu de joie. Toi l'Auvergnat, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel au Père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'hôtesse qui sans façon m'a donné quatre bouts de pain quand dans ma vie il faisait faim. Toi qui m'ouvris ta huche quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés s'amusaient à me voir jeûner. Ce n'était rien qu'un peu de pain, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un grand festin. toi l'hôtesse, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, ô Père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'étranger qui sans façon d'un air malheureux m'a souri lorsque les gendarmes m'ont pris. Toi qui n'as pas applaudi quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés riaient de me voir amener. Ce n'était rien qu'un peu de miel, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un grand soleil. Toi l'étranger, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, ô Père éternel.